Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons parler d'éducation dans quelques secondes. En deuxième heure, je veux juste vous dire tout de suite qu'on va parler de cette tendance à rapetisser son espace vital. Vous savez que la tendance est aux mini-maisons, aux condos, mouchoirs de poche, mais il y a aussi de plus en plus de gens qui suivent cette tendance que les designers appellent le downsizing, c'est-à-dire qu'on réduit sa grandeur de logement, là, son espace vital vraiment. Il y a des gens qui déménagent dans plus petit. Évidemment, des fois, il y a des gens aussi qui continuent de rêver à la grosse maison, mais ça a un coût tout ça. On aura tout à l'heure un spécialiste qui va nous dire qu'est-ce que ça veut dire en termes de coût. Et puis, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts, vous, à déménager dans un plus petit logement? Puis, on va s'intéresser à une question qui est toujours d'actualité, si vous êtes parents, grands-parents, si vous êtes grand-frère, grande-sœur, c'est-à-dire que vous avez des jeunes autour de vous qui vous posent la question, « Je peux-tu avoir un cellulaire? » À quel âge doit-on permettre le cellulaire aux jeunes, à nos enfants en plus? Puis, à quel âge peuvent-ils commencer à se le payer? Hein? Ça, c'est intéressant, cette question-là. C'est bien beau parce que souvent, la première question dit vite oui, mais c'est quand arrivent les factures que là, on commence à trouver que c'est un peu salé. On va parler de tout ça, donc gros programme à l'émission, en commençant par l'éducation. Puis on va se poser la question parce que beaucoup de politiciens depuis la dernière semaine dans cette campagne électorale ont mentionné légèrement quand même certains problèmes qu'on a dans notre système scolaire. Encore aujourd'hui, on parle des CPE. On a parlé entre autres de la maternelle 4 ans qui est proposée par la CAQ. Il y a plusieurs choses. Il y a le gouvernement de Philippe Couillard, gouvernement sortant aussi, qui parle d'investissement encore en éducation. Ce qu'on a vu pourtant au cours des 4 dernières années, c'est plutôt des compressions dans nos écoles. Puis je pense que les profs aussi en ont plein les bras. Redorer un peu la profession d'enseignant, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Alors, si on y va dans les propositions, on a certainement au moins une heure de discussion avec vous, chers amis. Je suis sûre que vous en avez, vous aussi, des solutions. Et puis, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que l'école d'aujourd'hui est vraiment faite pour tout le monde? On se la pose parce qu'il y a un sondage qui nous est arrivé il n'y a pas longtemps, un sondage CROP, qui nous disait qu'il y avait plus de 2/3 des Québécois qui étaient préoccupés par le coût des études. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ont entre 18 et 24, c'est presque un étudiant sur deux qui dit « Ouais, moi, je suis pas sûre de pouvoir continuer mes études postsecondaires parce que ça risque de me coûter trop cher. » Est-ce que ça veut dire que c'est encore, comme on l'a fait, vous vous souvenez, en 2012, hein, c'était ça, là, les carrés rouges, c'était ça, la bataille, c'était est-ce qu'on a les moyens d'aller à l'école? Est-ce qu'on en est là 6 ans plus tard? Il y a également Québec solidaire qui propose l'école gratuite. Vous savez, c'est pas des mauvaises idées, tout ça. Après, c'est est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? On va en parler avec nos invités. Régent Parent connaît bien le sujet. Il a été longtemps président de la Centrale des syndicats du Québec, chroniqueur au Journal de Montréal. Merci d'être là, Régent.
Bonjour, Isabelle.
Toby Lamontagne est entrepreneur. Il a 3 enfants d'âge scolaire. Merci, Toby, d'être
Salut,
avec
Isabelle.
Nous. Claudine Potvin est professeure orthopédagogue au primaire. Elle est directrice propriétaire de centres pédagogiques en accompagnement scolaire. Merci, Claudine, d'être là.
Bonjour, Isabelle.
Alors, tour de table rapide pour essayer de répondre un peu à notre question. On a trouvé une espèce de question qui survole un peu tous ces problèmes que je viens d'énumérer, puis il y en a plein d'autres que j'ai pas nommés. Est-ce que l'école d'aujourd'hui est vraiment faite pour tout le monde? Parce que à la rigueur, on pourrait dire, oui, t'es pas obligé d'aller à l'école non plus. Tu peux être autodidacte. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Régent?
Moi, je dirais que l'école d'aujourd'hui, là, quand on pose la question aussi brutalement que ça, c'est non, elle n'est pas faite pour tout le monde.
Je voulais pas te faire mal.
Ah non, mais je vais m'en remettre, Isabelle. Non, mais plus sérieusement, en soi, là, c'est une réponse simple, une question assez crue. C'est non, elle n'est pas faite pour tout le monde. Maintenant, est-ce que l'école doit être chamboulée puis virée bout pour bout? Non plus. Moi, je synthétise ma réponse en disant l'école est faite pour à peu près 2/3 des élèves, puis il y en a 1/3 qui bêche plus que nécessaire parce que finalement le système n'a pas pris des adaptations utiles et nécessaires. Donc, dans ce contexte, et c'est pas parce que dans
mais si c'est le même 2/3 qui est préoccupé par le coût de ses études, ça va pas bien?
Ben là, il y a un discours catastrophiste qui entoure l'école. Et je sais pas à qui sert, bon, on peut avoir une idée à qui sert le discours, mais je pense qu'on dramatise à outrance. Je veux dire, les problèmes de l'école, plutôt que poser un diagnostic précis, juste, puis dire, bon, à quoi on devrait s'attaquer, comment on devrait s'y attaquer. Et là, on le voit dans la présente campagne électorale, puis c'est ce que je discutais avec Toby Jordan. C'est, quelque part, là, on se lance dans toutes les directions, on est rendu à faire des lunchs, on va mettre du préscolaire 4 ans, mais si on fait du préscolaire 4 ans, tel qu'il se fait actuellement, ça va nous coûter 3 fois plus cher pour un résultat à peu près nul.
Pourquoi?
Ben, parce que, faut changer l'approche au préscolaire. Comment? C'est pas vrai qu'on peut se contenter, je veux dire, d'une approche universelle globale. L'enfant va apprendre par le jeu. Le savoir va émerger de lui-même. Puis, non, il faut, déjà commencer à détecter, à faire, de l'alphabétisation, à être en mesure de dire, oh, tel enfant va avoir besoin de service. Puis, plus vite on intervient, plus on va favoriser l'intervention précoce, plus on sera en mesure de réduire le nombre d'élèves qui échouent ou qui décrochent. Ça en coûtera moins cher et on pourra le mettre l'argent après ça dans des activités qui, finalement, sont peut-être plus efficientes. Mais tu sais, mais là, dans le moment où on a un ministère qui est enfermé, je veux dire, dans une philosophie de la réforme de 98, qui fait en sorte que même si on ajoutait, même de toute façon irréaliste, la promesse de M. Legault de penser mettre tous les enfants de 4 ans préscolaire l'année prochaine, on
n'est pas prêt, là.
Ben, on n'a pas l'espace pour ça, ouais. Et ça nous en coûtera une fortune.
Oui, le personnel.
Ça nous en coûtera une fortune pour pas beaucoup plus de résultats.
Ouais. Tu disais en même temps, Réjean, il y a un petit peu de sensationnalisme dans notre vision ou dans les nouvelles qui entourent l'école ou le système scolaire au Québec, mais en même temps, moi, je reviens à ce sondage, le 2/3 des Québécois qui disent, puis beaucoup de jeunes et de parents, là, les parents aussi ont la même opinion que les jeunes, c'est-à-dire que le coût des études, c'est un problème. Et puis, on regarde ce qui se passe au cégep. Il y a encore une nouvelle là-dessus ce matin. Il y en avait une la semaine dernière. C'est qu'il y a de moins en moins d'étudiants au cégep. Mais... Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui ont décidé que le cégep, c'était même plus pour eux. Donc, ça finit secondaire 5 si t'es chanceux d'avoir gradué. Claudine, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que t'es étonnée de voir, par exemple, qu'effectivement, le coût des études, ça peut être un problème?
Honnêtement, je serais très malhonnête parce que la question se pose effectivement sur deux volets. Sur le volet pédagogique auquel M. Parent a répondu et avec lequel je suis extrêmement d'accord. L'école, quand même, qu'on mettrait tous les millions possibles. L'école ne sera jamais à 100% pour tous les élèves. Il y a des élèves, puis nous, on le voit depuis les 3 dernières années, on fait beaucoup d'écoles à la maison et on travaille avec les commissions scolaires parce qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas fonctionner en milieu scolaire. Et ça, à travers mon 25 ans d'aide pédagogique, les 3 dernières années, là, c'est une tendance où on accompagne des élèves en individuel pour terminer puis continuer. Sinon, souvent, ça pourrait possiblement y aller avec un décrochage.
Mais est-ce que c'est est-ce que ce sont des élèves qui ont des élèves à défi, comme on dit?
Oui, là, effectivement, à défi, en difficulté, qui ont des retards scolaires pour lesquels c'est trop lourd, ça va trop vite en classe, alors c'est pour leur éviter parfois soit d'aller dans des classes spéciales ou pour s'assurer justement qu'ils vont terminer leur secondaire 5. Nous, depuis les 3 dernières années, on a de plus en plus d'écoles à la maison pour lesquelles on suit, parce que c'est un droit là, que les parents ont. Puis c'est pour ça qu'en juillet, il y a eu un changement qui a été adopté, là, puis qui va être amené. Alors c'est sûr que côté pédagogique...
C'est quoi le changement en juillet?
Bien, un changement par rapport aux critères lorsque l'enfant est accompagné, fait l'école à la maison. Ils ont changé. Ils ont été un petit peu plus pointilleux par rapport aux critères parce qu'il y en a de plus en plus. Alors, il y a des parents qui vont le faire par eux-mêmes à la maison. Il y en a qui vont venir chercher des services comme les nôtres. Et là, on travaille en collaboration avec... Parce que l'élève doit être rattaché de toute façon à une école, à une commission scolaire.
C'est intéressant, d'ailleurs, si on fera une discussion là-dessus
plus longue. Oui, ça vaut vraiment une émission.
Parce que je me dis aussi que ça doit répondre à une demande. Moi, je le vois, et surtout quand tu arrives en secondaire 4, secondaire 5, tu as 15, 16 ans.
Oui.
C'est, donne-moi-en de la matière. T'sais. Aide-moi à apprendre parce que tu dis...
Selon mon rythme aussi.
Oui, il y a le rythme. Tu parles d'enfants à défi qui ont besoin de plus de temps. Mais moi, j'en connais beaucoup. Là.
C'est des plus vite.
C'est l'inverse.
Oui,
c'est pas assez vite. J'apprends pas assez à mon goût. C'est une perte de temps. Je veux dire, j'avais une discussion hier avec des ados chez nous, là, de secondaire 4, secondaire 5. C'est comme, donne-moi en plus, parce que je suis capable d'en prendre. Puis si tu m'en donnes pas plus, je vais faire d'autres choses.
Ben,
je t'écoute
garçon,
juste pas.
Mon garçon, ça a été t'sais. Ça. Lui, il était tellement content d'entrer au secondaire là, cette année. Là, ça fait 2 jours. Là. Et lui, c'était du temps de prison. Depuis sa 4e année, là, il s'était comme...
Mais il y en a
vraiment,
qui font
je suis
du temps longtemps.
Exactement. Je veux juste revenir...
Mais je vais entendre Toby. On va revenir là-dessus. On a une heure.
Toby,
ton opinion sur...
Pour avoir 3 enfants dans le système actuellement...
Oui. On va dire leur âge.
Oui, ma petite de 4 ans qui est au CPE. Ma fille de 10 ans qui est en 5e année maintenant, et mon fils qui rentre au secondaire 1 aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, c'est super. Moi, je vais être un petit peu plus critique, je crois, parce que ce que je vois, c'est que l'école correspondrait à tous les enfants si tous les enfants étaient moyens. depuis une décennie, là, il y a un gros, gros, gros discours orienté sur les moyennes. Taux de diplomation de 85%, le ratio d'élèves en classe, le nombre de profs, le nombre d'orthopédagogues. Tout est sur des moyennes. Mais quand on regarde concrètement dans une classe, Régent parlait peut-être du 2/3 des élèves qui se rejoignent à cette moyenne-là. Moi, je crois pas que c'est le 2/3. Moi, je crois que dans une cohorte, dans une classe, là, c'est beau s'il y a 4-5 élèves qui correspondent à la médiane, là, à la moyenne.
Si
on enlève les élèves qui sont surdoués, on enlève les élèves qui sont en retard, on enlève les élèves allophones, on enlève les élèves immigrants dont le français est leur troisième langue, on enlève tout ça, là, c'est beau s'il reste 4-5 élèves qui correspondent exactement à la médiane. Et tout est fait pour gérer la classe en fonction de cette moyenne-là. Mm. Et dès qu'il y a une dérogation de la moyenne, et là, on gère en cas d'exception. Mm-hmm. Donc, on a 5 élèves dans la classe qui correspondent à la moyenne et tous les autres sont gérés comme des exceptions. Et puis là, ça fait un système qui est lourd et qui avance pas et qui se renouvelle pas.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là?
Ben, je pense qu'il faut décloisonner les profs. Okay? Les profs, ils sont beaucoup plus connaissants, beaucoup plus experts qu'on pense. Les formations ont évolué depuis 15 ans au niveau de l'enseignement. Les jeunes profs qui sortent, là, moi, j'en ai côtoyé quelques-uns, ils sont tripants. OK? Ils sont brillants, ils sont passionnés, ils sont motivés, ils sont dans l'enseignement, pas pour le fric, on s'entend, ils sont dans l'enseignement parce qu'ils sont passionnés. Et ils arrivent dans un système souvent beaucoup trop tôt. Hein, on les lance en classe maintenant, on l'a vu avec les pénuries de profs. Là. On les lance en classe, là, ils n'ont même pas encore la moitié de leur diplôme de fait. Alors là, il y a un grand, grand danger actuellement de brûler toute une génération de profs qui vont émerger dans un système qui est un petit peu désuet, puis qui arrive dans des conditions qui sont loin d'être idéales. Et j'ai peur qu'on les étouffe. Mmh. J'ai peur que toute leur créativité, toute leurs belles idées, toutes leurs nouvelles pédagogies qu'ils ont apprises dans les dernières années d'université, qu'on les écrase dans un système pré-manché où on dit, ben, si t'as un élève qui a des difficultés, réfère-le à l'orthopédagogue.
Ouais, je pense qu'on le fait trop vite. On le fait déjà depuis un certain scolaire. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je suis vraiment désolée. Moi, je côtoie depuis 25 ans des étudiants en enseignement. Ils font partie pour 80% de mes professionnels. La plupart s'entendent pour dire que justement, à l'université, ils n'apprennent pas vraiment ce qu'ils doivent vivre en classe.
C'est pas assez concret.
Arrivent sur le terrain, effectivement. Donc, leur pédagogie et leurs 4 ans d'université, souvent, ben, ils se rattachent plus à la suppléance qu'ils ont fait durant leur bac, à certains de leurs stages, parfois à l'expérience qu'ils vont pouvoir faire à travers du tutorat, à travers des entreprises comme la mienne. Mais moi, je suis dans le milieu scolaire présentement, dans 2 grandes commissions scolaires du Québec. Je côtoie, je me promène d'école en école et ils ont la place, ces enseignants-là. Les jeunes enseignants sont accueillis à ouverts, principalement au public aussi, et ils sont vraiment... Bon, naturellement, quand tu arrives dans une, on appelle ça une équipe école, ils sont là pour apprendre aussi, puis il y a l'accompagnement du jeune professionnel, et je ne pense pas qu'ils sont encarcanés. Oui, il y a peut-être des cas par cas,
c'est parce que je
généralement...
Moi, je suis désolé, j'ai des cas de l'an passé, ça a été un enfer.
La vérité est au milieu.
La vérité, c'est qu'il faut aller à la pause.
C'est pas moi. C'est
pas juste 4-5 élèves.
On va revenir tout de suite après ceci. Je pense que notre discussion est intéressante parce que ça touche beaucoup. Mais ça touche tous les Québécois, en fait, que vous ayez des jeunes ou pas à l'école, que vous ayez... On est tous passés par là, hein, parce que l'école est obligatoire, on le sait, jusqu'à 16 ans. C'est après que ça se gâte, parce que là, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de décrochage au Québec. On s'est déjà vanté il y a quelques années aussi d'être très bon en raccrochage. Je sais pas si on pourrait se péter les bretelles autant aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup de jeunes aussi qui prennent une grande distance par rapport à l'école, en disant on n'est pas obligé d'y aller, on peut faire autre chose. C'est pas faux, des autodidactes, il y en a. Évidemment, il y a plus aussi de jeunes qui ont besoin quand même d'un encadrement. Après, bon, est-ce que l'école d'aujourd'hui est vraiment faite pour tout le monde? Je pense que non, pas forcément, mais est-ce qu'on pourrait pas rêver d'une école un peu plus sur mesure par rapport à nos rêves, par rapport à nos besoins? Nous allons en parler, bien sûr, avec vous tout de suite après la pause. Vous pouvez nous joindre 514-790-9850 pour la Grande Région de Montréal, mais de l'extérieur, gratuit, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite. On se pose la question aujourd'hui, c'est une question globale, mais bien sûr, il y a tellement de ramifications dans le milieu de l'école. Quand on aborde ce sujet-là, on se demande, est-ce que l'école d'aujourd'hui est vraiment faite pour tout le monde? Monique, votre impression avec ce que vous en connaissez?
Ben, écoutez, moi, ce que je veux dire, il y a quelque chose qui m'a touchée dans ce que vous venez de dire, c'est tenir compte aussi des passions des jeunes. Et il y a des fois, le système actuel les éteint. Moi, j'étais une dernière de classe au secondaire parce qu'en physique, en chimie, j'étais nulle. Mm. J'ai eu des parents qui m'ont poussée. J'ai fait mon cégep, puis je suis allée à l'université, j'ai fait ma maîtrise et j'avais des notes, j'avais des A puis des B plus parce que j'étais dans un domaine qui m'inspirait. Mais si j'avais pas eu les parents qu'ils avaient, j'aurais décroché à 16 ans parce que c'est ça. Il y avait des choses qui faisaient en sorte que je pouvais pas arriver à passer mes années parce que quelque part j'avais des choses qui m'intéressaient dans lesquelles j'étais bonne, mais il y avait d'autres domaines qui m'éteignaient complètement.
Exactement.
C'est tout.
C'était plate finalement. Il y avait des grands bouts d'école où vous trouviez que c'était plate.
Écoutez, je peux vous dire que quand j'étais au primaire. Je faisais 60 petits traits dans mon cahier d'école et j'essayais de pas regarder l'horloge. Ouais. Et à un moment donné, je me pensais, je regardais l'horloge, je voyais qu'il y avait 10 minutes qui avaient passé, je cochais mes traits, là.
Mon Dieu. Quelqu'un disait, c'est Claudine qui disait, c'est la prison de tout à l'heure. Fait des petits barres.
Certains élèves, c'est malheureusement ça.
Merci, Monique. Merci bien. Bonjour, Olivier. Est-ce que, d'après vous, l'école d'aujourd'hui est faite pour tout le monde ou elle est mal faite pour beaucoup, trop de jeunes? Ben,
je pense qu'elle est mal faite pour certaines personnes. Je pense qu'on n'apprend pas ce qu'on pourrait apprendre dans la vie. Dans les faits, moi, j'aimais beaucoup les mathématiques. Je sais pas encore si aujourd'hui je suis capable de calculer l'équation pour un triangle rectangle, mais j'aurais vraiment aimé qu'on m'apprenne à calculer un budget, exemple.
Ouais.
Ou peut-être calculer mes calories. T'sais, on parle beaucoup de santé puis de bien manger ces temps-ci.
Mm-hmm.
Mais moi, je m'alimente beaucoup sur le numérique, donc j'achète beaucoup de formations. J'aime beaucoup m'instruire, mais je pense que l'école, en ce moment, répond pas à un besoin de la vie actuelle.
Oui, c'est pas assez terre-à-terre. Quel âge avez-vous, Olivier?
Moi, j'ai 35 ans. 35. J'ai lâché l'université la troisième semaine parce que je trouvais que c'était un peu redondant. Puis on calcule les résultats sur selon le professeur puis selon le bouquin. On calcule pas le résultat selon la valeur. Moi, je suis en communication. Donc, c'est sûr que moi, 2 plus 2, ça c'était pas 4. Là.
Mm.
Donc, c'est vraiment les idées plus que la pratique. T'sais.
Et vous faites quoi, finalement, dans la vie?
Ben, je suis en communication, je suis en relations publiques, puis, mais je me forme. Je pense que à chaque année, je dois investir au moins un 4-6 000 $ là, en formation là, pour toujours continuer à m'instruire puis continuer à voir là, ce qui se fait, là, soit dans mon domaine ou dans des domaines connexes.
Intéressant. Merci beaucoup. Merci, Olivier.
Merci.
C'est intéressant ce qu'il vient de nous dire aussi. C'est que lui, il trouvait que finalement, c'était tout ce qui entoure la notation aussi, les critères. Souvent, c'est vrai que c'est le prof. On parlait des profs. Là. C'est vrai qu'à l'université, des fois, là, tu le vois à peine, le prof. Il y a beaucoup de stagiaires, des remplaçants. Puis tu apprends que tu as une note à la fin, tu n'as pas vraiment moyen de débattre. Bon, il y en a qui vont dire, il y a des étudiants pour qui c'est une job de débattre leurs notes, là, mais est-ce que c'est la bonne façon de noter, Réjean?
Moi, je pense qu'il faut mettre des bémols. Mmh, moi, je veux bien qu'on change le système. Qu'on le critique, c'est correct. Qu'on veuille l'améliorer, c'est correct. Mais tu sais, à quelque part, j'écoutais Toby tantôt quand tu disais, là, le prof, là, il est enferré. C'est pas vrai.
Non.
Je veux dire, s'il y a une profession qui a un rayon d'autonomie très grand, c'est bien celui d'enseignant. Mm-hmm. Quand tu fermes ta porte de classe, là,
Je suis pas d'accord.
Non, t'es pas obligé d'être d'accord.
ça prendrait un prof avec nous, mais.
Ben, je suis un prof, je suis avec vous, puis j'enseigne dans deux commissions scolaires.
Non, mais là, il y a quelque
chose. Mais continue, désolé. Mais on reconnaît même pas le fait que, excusez, voyez-vous, je vous dis, moi, je suis en enseignement, puis c'est comme. Puis c'est ça, c'est pour ça que notre profession, elle est maintenant reconnue très peu comme ça, parce qu'on se dit, tu sais, c'est pas grave, on écoute ce qu'on veut, on y va avec notre perception, puis, en tout cas,
je pense qu'il y a beaucoup d'autonomie dans la classe pour une enseignante ou un enseignant, puis de dire que c'est le système qui le contraint à faire de telle ou telle manière. Des fois, ça devient un abri facile, peut-être pour certains, pour répondre à un parent embarrassant ou confrontant.
Oui.
Mais en bout de course, il y a beaucoup d'autonomie pour l'enseignant. Mais en même temps, je me distingue un peu de Mme Potvin quand elle dit, ben là, les profs arrivent, puis ils s'inscrivent dans une équipe école. L'insertion professionnelle est déficiente aussi.
Oui, c'est ce que je voulais dire.
Quand tu arrives au début de la profession, il y tu aurais besoin d'un peu plus de support. Puis là, là-dessus, c'est des discussions qui ne sont pas faites.
Mais ça, c'est un peu dans n'importe quelle profession, sauf qu'on pourrait dire, dans le cas de l'éducation, ça serait important qu'il y ait un cadre.
En même temps,
étant donné que c'est l'avenir de nos enfants. Dernièrement, plein de chroniqueurs dans les journaux un peu partout disaient à quel point l'école et les enseignants avaient tellement un impact sur la vie. En général, la vie d'un jeune, le fait de dire... quelqu'un disait, on peut tous nommer un prof qui a été majeur dans notre vie, qui a fait une différence dans nos vies.
Tout le monde a ça.
Alors, respectons-les, respectons la profession.
À ce moment-là, ça veut dire que si ces gens-là sont aussi importants, mais il faudrait avoir une préoccupation du côté gouvernemental pour faire en sorte, quand ils arrivent dans la profession, et là, je vais rejoindre Toby, c'est-à-dire, à quelque part, bien les accompagner quand ils commencent. Parce que de toute façon, moi, j'ai fait 40 ans dans l'éducation. Dès la première année où j'ai commencé à enseigner, moi-même, je le disais, là, l'université ne m'a pas préparé à enseigner. Puis, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est la même chose que j'entendrais parce que, effectivement, il y a à la fois l'acquisition d'un savoir, d'une connaissance, mais en même temps, il y a une pratique à développer. Puis, ça prend un certain temps. La preuve, c'est qu'on met une échelle à 15 échelons d'expérience pour les enseignants parce que, normalement, les échelons d'expérience, ça correspond au temps que ça prend pour atteindre le zénith de la profession.
Exact.
Fait que soyons réalistes, puis essayons pas de nous faire croire que quand tu commences la première journée, tu vas être du même acabit, puis de la même efficience que quand tu vas avoir 20 ans de carrière de fête. Après ça, l'équilibre dans la classe, puis les approches, puis comme... Parce que là, moi, là, de dire qu'il y en a 5 dans la moyenne, l'école n'est pas faite pour la moyenne. L'école est faite pour l'ensemble. On doit avoir un socle commun d'apprentissage, socle commun
d'apprentissage. Mais ce qui se passe dans la vie, puis là, c'est... Toby pourrait parler d'école alternative, parce que tes enfants vont là, de plus en plus de Québécois choisissent autre chose que l'école publique. Ils vont choisir l'école alternative.
Ça peut être public aussi.
Elle est publique, l'école alternative.
Oui, ça peut être public, je dis. Ça peut être privé. Ou ils vont choisir l'école privée, mais ils vont choisir... Là, c'est devenu... Là, les parents choisissent de plus en plus des écoles différentes ou qui offrent des programmes différents. Ça prouve quelque chose.
On vient de magasiner depuis 2 ans l'école secondaire de mon fils. Là. C'est du clientélisme. Là. On magasinait les écoles. Là. Je suis désolé.
Mais là, vous tombez dans le privé.
Non, du tout. Mon fils est au public. Non, c'est ça. Il faut arrêter ces discours-là d'opposition puis de clivage parce que là, ce que j'entends, malheureusement, c'est des grosses contradictions. Si les profs avaient tant d'autonomie... Pourquoi ils sont si misérables en classe puis qu'il y a autant de burn-out? Là, c'est fou. Là, c'est une profession qui est accablée là, par la fatigue professionnelle. Pourquoi on a besoin d'entreprises là, qui offrent de l'aide aux devoirs aux profs? Là? Pourquoi les parents doivent payer pour ça? Pourquoi on doit développer tout un réseau externe à l'école pour soutenir les étudiants? C'est un non-sens. Je suis désolé, mais d'entendre ça me choque parce que c'est d'aller en l'encontre de la réalité puis c'est de garder le problème actuel en n'abordant pas de front les vraies problématiques. La profession d'enseignant est sous-estimée et elle est sous... rémunérés.
On dit tous la même chose.
Mais c'est pas en disant que les profs sont bien puis que ça va bien qu'on va les aider, les profs. Moi, je veux les soutenir, les profs, pour vrai. Puis je veux les sortir d'espèces de marasme dans lequel ils sont parce que je vois la nouvelle cohorte de jeunes qui sortent dans des conditions qui sont exécrables. Je suis désolé. Moi, je travaillerai pas. Moi, je veux les aider. Moi, je suis à l'école alternative. Je suis là tous les jours.
J'ai enseigné plusieurs années à l'alternative.
Okay, on va parler en français.
Moi, je suis là, puis j'aide, puis je vois les parents qui aident, puis je vois l'appréciation des profs face à l'aide qu'on leur apporte. Et ça devrait être partout comme ça. Pas, tu laisses ton enfant à la clôture de l'école, tu n'as pas d'autre entrée sur le terrain de l'école comme dans toutes les écoles publiques au Québec. Là, c'est un non-sens.
Ben, c'est normal, c'est une question de sécurité pour les élèves.
C'est pas normal. Nous, moi, j'ai accès à l'école, il n'y a pas de problème. On a fait les enquêtes qu'il fallait.
Non, c'est faux.
OK, on va parler à Francis, si vous me permettez, un auditeur. Bonjour, Francis.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super bien.
Oui, en fait, moi, je trouve que la problématique n'est pas vraiment dans la discussion présente. Moi, j'ai 21 ans, puis je viens de graduer d'un DEC, en fait. Puis moi, je trouve que l'école, en général, jusqu'au secondaire, tu sais, c'est assez général, puis je trouve que c'est accueillant pour tout le monde. Le seul problème, c'est que je trouve que pour les alternatives après le secondaire, c'est mal communiqué à travers l'école, puis que c'est ça qui fait que les jeunes sont désintéressés parce qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, en fait. Fait que, puis admettons, nous autres, au secondaire, nous, on s'est fait driller. Il fallait, après ça, aller à l'université, mais faire avant sciences humaines, sciences nat, puis après ça, c'est l'université, puis après ça, c'est une job.
C'est
moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait un DEC. J'ai fait mes recherches par moi-même.
Un DEC en quoi vous avez fait, Francis?
Un pilotage.
Oh, OK.
Puis en fait, moi, tu sais, moi, j'ai trouvé ça, ça a toujours été une passion, mais tu sais, dans un DEP, c'est jamais communiqué à travers le secondaire. Tu sais, il n'y a pas de sortie où est-ce qu'ils vont, où est-ce que, mettons, quelqu'un va choisir un champ de travail qui pense qu'il l'intéresse. Essayer, mettons, peut-être une semaine ou deux jours. De DEP, puis après savoir, OK, moi j'aime ça, j'aime pas ça.
Tellement. Ouais, DEP, diplôme d'études professionnelles, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'aller à l'université après un DEP,
non, ben
tu peux aller sur le marché du travail.
Et même un DEC, c'est tellement pas parlé dans les écoles, c'est juste le même moule pour tout le monde qui est sciences humaines, sciences nat, puis après ça, il faut que tu ailles à l'université. Fait que moi, je pense que ça, il y en a des jeunes qui voient ça, puis ils se disent, ben moi, ça me tente pas de faire ça, puis ils se font pas donner d'autres alternatives, fait que, puis peut-être que ça leur tente pas de chercher par eux-mêmes. Fait qu'ils sont désintéressés puis ils lâchent l'école.
Mmh. Il y a deux éléments dans ce que Francis dit à Isabelle, puis je trouve ça très intéressant. D'abord, il faut se rappeler là, qu'on a des gouvernements successifs qui ont quasi fait disparaître toute l'orientation à l'école. On a modifié le programme, initiation, choix de carrière, on a fait disparaître ça de la grille matière il y a 20 ans.
Les conseillers en orientation, il y en a beaucoup qui ont pris le bord aussi.
Parce qu'on a appelé ça l'approche orientante. Dans le fond, on a voulu délester, sur la base de compression et de coupure, on a privé des jeunes comme Francis d'avoir accès à un conseiller en orientation, une conseillère en orientation, de pouvoir finalement faire un choix de carrière conséquent. Et ça, c'est dans cette dynamique-là, là-dessus, de dire on n'entend pas parler de DEP, on n'entend pas parler de DEC. Jusqu'à un certain point, on a des gouvernements qui ont fait en sorte que les jeunes savent de moins en moins ce qu'ils veulent faire dans la vie. Deuxièmement, il touche un autre point très sensible, la survalorisation du parcours universitaire par rapport à un parcours technique ou c'est professionnel. Et ça, souvent, c'est pas juste l'école. C'est les parents. C'est même à la création même des cégeps, on parlait d'un 60 % technique, 40 % préparation à l'université. Ça s'est pas matérialisé. C'était l'accent, l'avenir est dans l'université. Puis à un moment donné, je pense que là-dessus, c'est pas tant l'école qu'il faut travailler, c'est sur les parents, leur faire saisir que tu peux avoir des emplois très prestigieux, rémunérateur.
Je pense qu'il faut le dire à nos jeunes, essayez de trouver quelque chose que vous aimez. Essaye de voir qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie, puis part de là. Puis tu peux te tromper.
Mais depuis 15 ans, on parle de la société du savoir.
Ils peuvent se tromper. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer plusieurs affaires. C'est même pas de se tromper, c'est de dire, regarde, essaye ça. Si t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça, t'essayeras d'autres choses. Après, bon, il y en a qui essayent pendant 20 ans, c'est une autre chose, mais je pense que ça reste marginal. Mais il faut trouver sa passion. Merci, Francis. Bonne chance dans la vie. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On revient tout de suite après avec vos commentaires. Dites-moi si vous estimez que l'école d'aujourd'hui répond vraiment aux désirs, aux besoins de nos jeunes. On a beaucoup parlé des enseignants. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à ceux qui sont sur les bancs d'école, que ça soit dès la maternelle jusqu'à l'université, en passant par le cégep, qui est de moins en moins populaire. On l'a vu, là, les inscriptions baissent beaucoup. Le cégep est en déclin dans la plupart des régions du Québec. C'est assez dramatique. 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Alors, on va parler à Fabienne, une auditrice. Bonjour, Fabienne. Je pense que votre fils est au cégep, c'est ça?
Oui, il vient de rentrer.
OK.
Et puis, c'est ça, moi, je trouve qu'on a beaucoup la culture au Québec. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont la culture. Ils sont pas intéressés par la réussite.
Mm-hmm.
Sincèrement, je trouve qu'il y a un certain laxisme au niveau des jeunes, indépendamment des parents. Je peux pas dire si c'est les parents ou si ou ça, mais souvent, ils vont avec la loi du moindre effort. Parce que même au niveau du cégep, il y a des programmes qui sont hyper intéressants.
Mm-hmm.
Mais on dirait que la majorité des jeunes vont au plus facile. T'es pas bon en maths, tu t'en vas en sciences humaines.
Ouais.
Pas de maths. Le plus facile, pas de maths. On va pas non plus essayer de faire un cours de maths puis essayer de savoir si on pourrait être meilleur. Non, non. On va aller au moins, on va aller facile. Puis c'est sûr qu'avec un DEC en sciences humaines, pas de mathématiques, ça coupe un petit peu après ça.
Ouais.
C'est qu'on va s'en aller. Mais on va au plus facile. Puis on continue à aller à l'école. Fait qu'on fait plaisir aux parents, on fait plaisir à tout le monde. On continue au moins d'aller à l'école puis c'est facile. Parce que même si on fait un DEP, même si on fait un DEC, ça demande un effort. Qu'on aille faire un DEP en machinerie fixe ou n'importe quoi, ça reste que ça demande un effort.
C'est sûr.
C'est 1850 heures, mais c'est 1850 heures souvent avec de l'effort au bout de la ligne.
Mais moi, j'ai l'impression que l'effort est plus ressenti comme pénible et effort, justement, quand t'aimes moins ce que tu fais ou quand t'aimes moins ce que t'apprends. Et c'est pour ça qu'il faut redire à nos jeunes, ben choisis quelque chose qui te passionne, parce que là, c'est toujours plus facile quand on aime ce qu'on fait. Hein? Si on n'aime pas ça, c'est plus lourd.
Ouais, mais la notion de dire les jeunes toujours. Pas te faire juste qu'on aime.
Non, je sais, mais ça, faut Régent. Aujourd'hui, Fabienne, elle a pas tort.
Peut-être que dans 10 ans, avec une pénurie d'employés, peut-être qu'ils vont pouvoir faire un peu plus ce qu'ils veulent.
Mais Fabienne a dit quelque chose. J'ai l'impression que ça soit son fils ou d'autres. Hein, Fabienne, vous nous parlez de votre fils, mais vous parlez de ceux qui côtoient, que vous côtoyez. La loi, moi, je le vois aussi, je le sens un peu. C'est malheureux, mais puis on veut pas être les vieux croutons qui disaient « Ah, oh, mon Dieu, avant, c'était mieux », mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit peut-être que c'est de notre faute parce qu'on a élevé nos enfants en leur disant qu'ils étaient bons puis qu'on les encourageait. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop que ça soit difficile.
Non, puis même si tu fais une formation, même, mettons, tu décides d'aller en enseignement ou en médecine, je suis certaine que n'importe qui fait une formation ou peu importe, va dire effectivement, comme M. Parent, il y a des cours que j'ai moins aimés. Comme moi, j'étais une autodidacte. En enseignement, je l'avoue maintenant, après 25 ans, combien de cours à l'université j'ai séché pour aller sur le terrain. Moi, j'étais une fille de terrain. Première année de bac, on m'offrait de la suppléance. Gestion de classe, c'était ma force.
Mais si c'était
les élèves,
c'est
les organisaient, ce sont pas eux qui m'organisaient, mais il y en a qui, après 4 ans d'année de bac, ont de la misère, ont énormément de difficultés avec leur et s'accrochent avec, se collent les fesses à l'université.
Mais là, on est revenu aux enseignants, alors que je voulais qu'on parle des cégep, des jeunes.
C'est d'aimer ce qu'on aime, mais il va toujours avoir un petit quelque chose qui va être difficile.
Mais la notion d'effort, Fabienne mettait le doigt sur la notion d'effort. Je trouve ça intéressant, là.
Effectivement, l'effort, le sens de, parce que, tu sais, là, on parle de faire ce qu'on aime, mais moi, je dis mes collègues comme Mathieu Bock ou Charles Martineau, on n'a plus le sens de l'effort, puis là, apprendre, c'est difficile, puis il va falloir... Donc, à quelque part, ça prend un équilibre. Moi, j'en reviens à mon socle commun, c'est qu'est-ce que les enfants doivent posséder, je veux dire, à la fin d'une étude secondaire. Donc, on va commencer là-dessus.
Est-ce qu'on s'entend là-dessus?
Est-ce qu'on s'entend là-dessus?
C'est pas seulement académique.
J'ai pas prétention d'avoir la vérité à moi tout seul, mais qu'est-ce que...
Mais c'est quand la dernière fois qu'on a eu un débat là-dessus?
Je veux dire, c'était toujours un débat qui est comme du pop-corn. De temps en temps, ça monte, puis ça redescend. Mais moi, je pense qu'il faut éventuellement s'entendre sur qu'est-ce qu'on s'attend qu'un jeune à la sortie du secondaire va posséder. Et ça, là, parce que, tu sais, déjà...
Il y en a qui vont dire déjà lire et écrire comme il faut.
Lire et écrire.
Juste là-dessus, ça achoppe.
Et apprendre à lire, apprendre à
écrire.
Même
les jeunes profs coulent leur cours de français. Leur examen de français. Il y en a qui l'ont pris 3 fois. Il a fallu qu'on dise, OK, après 4, c'est assez, tu ne pourras pas être prof.
Ben, ça revient, là. On parlait d'enseignement magistral. Moi, je préfère parler d'enseignement explicite. Mais quelque part, là, je veux dire, les approches qu'on a, à un moment donné, quand elles ne sont pas équilibrées d'une classe, ça fait en sorte que des enfants ne sont pas capables d'identifier des sons, d'identifier des lettres. Ils ont pris au mot étiquette. Il y en a que ça va très bien. Les enfants de ton vie ont l'air à apprendre d'une façon très facile. Mais le Conseil supérieur d'éducation, il y a 2 ans, dans son rapport sur les besoins d'éducation, disait l'école est discriminatoire, ségrégationniste, parlait quasi d'un apartheid scolaire. Donc, dans le contexte, j'ai faire en sorte que l'école va pouvoir répondre à tous les enfants. Il me semble que ça devrait être un projet porteur. N'importe quel policier devrait avoir ça à cœur.
Et de société, un projet de société. Et tout à l'heure, là, par respect par tes auditeurs, c'est important parce qu'on bombarde de plein d'informations.
Ils sont capables d'en
prendre. Je sais, mais l'école alternative, Google. Quand on fait le choix, mais pour moi, l'éducation, ça se passe plus que par Google, dans le sens que quand on choisit l'école alternative, par exemple, son enfant, c'est totalement différent. C'est un choix, c'est un peu comme choisir le végétarisme ou quoi que ce soit. Et l'enseignement, faut qu'il soit diversifié. Alors, on peut pas changer tout d'un coup. Les jeunes enseignants, moi, je le vois, je suis là, ils sont ouverts, c'est pas toujours facile de percer une profession, mais il faut donner le temps, puis l'expérience, ça s'achète pas, ça s'acquiert.
On a Myriam avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, en fait, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que je crois, c'est Toby. Toby, il dit la vérité depuis tantôt, c'est incroyable. Écoutez, je trouve pas ça normal qu'on puisse dire que nos enfants se sentent comme en prison. Je trouve qu'on prend pour acquis que l'école, c'est plate, puis que c'est une prison. Ça devrait pas. C'est 11 ans de vie. C'est énorme. C'est énorme. La vie, c'est tellement... Moi, j'ai doublé 2 fois mon secondaire 2. J'ai fini de peine et misère aux adultes. C'était épouvantable. Mes questions existentielles n'étaient pas répondues. Et ce n'est pas vrai que les profs ont la liberté. Puis c'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents. C'est le système est contraignant. Les profs qui essaient de déroger pour être créatifs se faisaient taper sur les doigts, se faisaient exclure des petites cliques de profs. C'était l'enfer. J'ai fini mon bac en psychologie avec une moyenne de A-. J'étais intelligente et j'ai jamais pensé que j'étais intelligente jusqu'à l'âge de 21 ans quand je suis rentrée à l'université. Donc, c'est quand même incroyable. Puis l'école, c'est pas juste les matières, c'est tout le reste. C'est pas normal qu'on envoie nos enfants avec des gens, des centaines d'autres enfants, pas de supervision ou à peine, se faire boulier. Puis c'est pas des exceptions, le bullying, c'est une réalité. Et c'est incroyable comment ça diminue l'estime de soi des jeunes. Puis on trouve ça normal. Ben c'est une phase. C'est pas une phase. Christy, c'est 11 ans d'une vie, tu sais. Bref, c'est ça que j'avais à dire. Je suis bien pompée.
Non, mais vous avez raison.
Ben oui, puis le but, c'est...
Mais tu sais, il y a des détails, puis oui, c'est drôle parce que dans la grande conversation qu'on avait avec nos jeunes hier à table, c'était leur première journée, là, j'étais retournée au secondaire. Moi, ma fille est en secondaire 5, puis... Puis ça a été très difficile pour elle au cours des dernières années. Elle aime pas son école. Puis c'est plate quand t'aimes pas ton école, pour plein de raisons. Et là, je lui dis, j'ai le discours de, regarde, quasiment quelqu'un qui reste un an de prison à faire puis que tu sors dans pas long, là, c'est épouvantable. Puis on essaye de l'accompagner du mieux qu'on peut. Puis l'école est pas si mal, mais... Mais c'est ça que je m'entends, puis je lui dis, attends, gars, c'est ta dernière année, ça finit bientôt.
Mais en tant que parent, Isabelle, ça déchire le cœur.
Ah, non, mais attends,
c'est tellement. Ah, je trouve ça difficile.
Et ce qu'elle disait hier avec ses autres copines, c'est que, d'abord, les cours qui commencent à 8h10 le matin, quand t'as 15.
Aucun sens.
Ouais. Puis je leur disais, ben justement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je me souviens plus que la commission scolaire avait essayé ça, mais ils avaient un taux de décrochage tellement élevé qu'ils ont... Puis beaucoup de jeunes leur disaient, trop tôt, je suis pas là le matin, parlez-moi pas avant 10 heures. Fait qu'ils ont retardé
et
leur...
Et la science le démontre,
oui,
hein, Isabelle,
c'est
la
documenté.
Neuroscience, qui depuis 10 ans, on est belles avancées, là. On dirait, on prend pas en considération rien de ça.
Non,
la
donc ils ont reculé l'heure du premier cours, je pense 9h30 ou quelque chose comme ça, et ils ont vu leur taux... de décrochage, baisser, là, ça a été drastique.
Oui, mais on s'entend là-dessus, mais encore là...
On a une gestion scolaire
d'exception,
d'horaire d'autobus.
Oui, bien c'est ça. Alors, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, possiblement que les autobus scolaires avaient seulement qu'une tournée. Quand on arrive dans une grande région, comme la région de Laval, de Montréal, il y a plusieurs écoles qui débutent très tôt, à cause du fait, justement, que les autobus scolaires ont deux circuits à
mais moi,
respecter.
Tu me dis, ton
alors,
enfant...
C'est
non,
mais
attends,
l'idéal,
attends
là.
Les parents qui nous écoutent en ce moment, là, qui habitent à Laval
c'est la
ou ailleurs...
Réalité.
Ils disent, on s'en fout. On veut juste organiser vos autobus.
Oui, mais ils ont raison. Il y en a là, qui se font prendre à 6h30 du matin, des petits-enfants, parce qu'il faut qu'ils fassent la randonnée dans l'autobus. Là.
C'est ça.
Puis des fois, l'autobus... là, écoute, moi, j'ai eu à un moment donné ce genre de problème là, à Verdun. Là. L'autobus... pouvait prendre ma fille à 7h moins le quart. Il apprenait quasiment la première au début. Il faisait le tour de Verdun. Il arrivait à l'école à 8h moins 10. Je disais, mais pourquoi une heure? On habite à 15 minutes. Ben c'est de même, c'est ça la run d'autobus. Ben voyons donc!
Oui, puis ça se peut, hein, Isabelle, ça se peut. Je lance une hypothèse. Hein. Ça se peut aussi que les profs, les parents et les élèves subissent des mauvais gestionnaires ou des gestionnaires qui sont tellement déconnectés de la réalité et du plancher qu'ils réalisent même pas que ça n'a aucun sens qu'un enfant fasse un heure et quart d'autobus quand il reste à 15 minutes de l'école. Il y a comme une déconnexion là, qu'on sent au quotidien quand on est sur le terrain et qu'on est parent ou qu'on le voit, là, ça saute dans le visage.
Ouais. Parce qu'ils prennent souvent
moi,
ça pour du cas par cas. Mais
tu
fais
partie des conférences, je suis décontenancée par ce genre de discours.
Pause, nous allons à la pause et nous revenons tout de suite après. Je vous posais la question, est-ce que l'école d'aujourd'hui est vraiment faite pour tout le monde? Je pense que la réponse jusqu'à maintenant, après nos discussions, débats, c'est que non, effectivement, il y a chacun aussi a son opinion par rapport à l'école et son vécu. Carolina, quel est le vôtre?
Bonjour, ça va bien?
Ça va, merci, et vous?
Oui, moi, je suis un petit peu de côté. Donc, je suis étudiante à l'université en enseignement.
Ouais.
Et j'ai également enseigné durant... 5-6 ans auparavant, donc je crois que ce qui se passe, c'est que c'est un petit peu la société qui est déconnectée auprès de nos jeunes. On connaît pas nos ados, puis on tient pour acquis qu'ils vont l'apprendre à l'école, puis tiens-toi droit, puis ferme ta bouche, puis c'est tout. Mais je pense pas que c'est comme ça devrait se passer. Je pense plutôt qu'on devrait plutôt leur poser la question qu'est-ce qu'ils veulent, puis je pense que... Monsieur... le jeune qui est avec vous, là, je me souviens plus de son nom.
Toby?
Il en a parlé. Pardon?
Toby?
Hey, merci.
Oui, je pense... Ben, vous.
Merci.
La voix plus jeune, j'ai entendu, désolée. Le dit aussi, c'est que... ben, c'est ça, les jeunes, ils sont laissés tomber, en fait. Puis partout dans la société, pas juste à l'école.
Oui. Merci. Merci Carolina, merci bien. C'est drôle parce que à la suite de nos derniers commentaires, il y a beaucoup de gens qui ont flashé là, sur l'histoire des horaires d'autobus et beaucoup de gens me disent ben moi c'est pas de dire que les autobus Normand m'écrit ça, c'est pas de dire que les autobus font deux écoles. Moi j'ai 50 ans puis à mon époque c'était à 7h AM, 7h du matin dans l'autobus puis après ils ramassaient une autre école. Donc il y a Nathalie de Laval qui dit au secondaire ses filles commençaient à 7h50 le matin. C'est de bonne heure. Mm-hmm. Elle dit oui, mais le soir moi en tant que parent, je me suis assurée qu'elles allaient coucher relativement tôt.
Exact.
Bon, ben moi, je dois pas être une bonne mère parce que moi, coucher ma fille de 15 ans de bonne heure, j'ai de la misère. Mais moi, je me souviens comment j'étais comme ado. Moi, à cet âge-là, j'avais comme mon cycle biologique me réveillait à 11 heures. J'étais « Wouhou, party, party! » Fait que c'est, qu'est-ce que tu veux? Puis c'est documenté, là. Les ados, démontré. Là, c'est comme ça. À 4 heures, t'as une petite baisse, puis...
La mais différence, chose c'est qu'il y a 15 ans, on savait pas ces choses-là.
Mais il y a une chose... 15 ans, on savait ça aussi.
Pas problème, biologique.
On le savait.
Non, mais tout ceux qui disent « On n'est pas mort, OK, mais as-tu aimé ton école? »
C'est une question d'argent. C'est aussi bête que ça, puis t'as ouvert, Isabelle, avec l'argent.
Oui.
Puis, on va revenir. Les autobus, c'est pas une question de gestionnaire. Mm-hmm. C'est une question d'argent. On se place dans une situation. Combien est-ce qu'on donne en termes de budget de transport? Et là, tu construis des circuits d'autobus en fonction que ça va rentrer à l'intérieur du budget.
Puis personnel de soutien, puis concierge, puis tout ça.
Et ainsi de suite. Et finalement, le problème actuellement, là, c'est quand on parle d'école, c'est qu'on a une école, c'est vrai, on dit elle répond pas à tout le monde, mais les écarts se creusent. Les élèves qui, je vais reprendre l'expression de Mme Potvin quand elle dit les élèves à défi, là, je trouve, ça va pas, je l'entends, mais je trouve que c'est bien, plutôt que de parler d'enfants en difficulté ou handicapés.
À défi.
Les élèves à défi, les élèves. C'est toi qui dis ça?
C'est pas grave.
C'est parfait. ceux qui ont celles qui ont pensé, c'est excellent. Oui. OK? Et là, c'est ces enfants-là qu'on est en train d'abandonner. C'est ces enfants-là qui sont laissés pour compte.
Ils sont une méchante gang.
Ils sont
nombreux.
Ils sont un sur trois.
Ils sont nombreux et ils décrochent.
C'est pas une question de moyenne tantôt quand je parlais en début d'émission. Je disais, il y a un enfant sur trois qui se reconnaît pas dans le système actuel. S'il n'est pas parfait, le système actuel, puis dans les deux sur trois qui réussissent, sûrement qu'il y en a qui diraient, j'ai très bien réussi à l'école. J'ai haï ça à l'école. Il a fallu que je passe ma vie là-dedans pour commencer à trouver que ça avait bien du bon sens. Mais à quelque part, là, je veux dire, c'est pas toujours facile. Tu fais pas toujours ce que tu veux, mais il y a deux enfants sur trois qui arrivent à passer à travers le système, parce qu'on l'appelle le système, puis relativement, je veux dire, à avoir une carrière qui a de l'aplomb.
Est-ce qu'on pourrait se poser des questions sur l'organisation? Est-ce qu'on pourquoi on se demande pas comment faire mieux? J'en parlais ce matin, là, puis...
C'est excellent.
Je me dis, en ce moment, a annoncé 38 degrés, OK, aujourd'hui, de température. Il n'y a pas de climatisation dans la plupart des écoles, sauf peut-être dans le bureau du directeur. Fait que là, tu as des enfants à qui on va demander aujourd'hui de recommencer l'année en aimant l'école, en ayant du plaisir. Ils ont chaud. Là, on leur fait porter, parce que de plus en plus, même dans les écoles publiques, il y a des costumes d'école avec le petit chandail et tout. Écoute, c'est débile. Aujourd'hui, là, à 40 degrés, tu devrais pas avoir d'école, c'est trop chaud. Sinon, mettez de la clim, là. Mais ça se peut pas. Pourquoi qu'on fait pas... T'sais, on pourrait réaménager le calendrier scolaire. Moi, je me dis, pourquoi l'école finit à 3 heures? Pourquoi qu'elle finit pas à 4? Ou même à 5, incluant la période de devoir?
À cause des autobus.
Puis là, t'aurais moins... Encore les mots d'autobus.
Le temps d'enseignement.
De toute façon, les jeunes restent jusqu'à 6 heures à l'école au service de garde, là, puis 5 heures, 5 heures.
Il faut pas généraliser, encore une fois.
Les services de garde sont pleins à 5 heures. Là,
beaucoup.
Les jeunes restent à l'école de toute façon. Là.
Pas tous jusqu'à 6 heures.
Non, pas tous, mais il y en a beaucoup.
Puis ça, il faut faire très attention.
Non, mais on se pose pas ces questions-là. Ça, c'est des questions de base. Il fait chaud. C'est comme dans le métro. On se pose pas ces questions-là. Est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on offre en ce moment?
Mais là, ce qu'on va faire, c'est que si, mettons, on commence plus tard et qu'on finit plus tôt, parce que si on peut pas dire on commence plus tard, on finit plus tard au mois d'août.
Pourquoi pas?
Mais parce qu'il va
faire
chaud.
Non, tu vas avoir moins. Si tu rajoutes des heures.
Alors là, on va devoir faire un autre départ pour dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ils sont 8 heures, 9 heures à l'école. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est sûr qu'il va y avoir autre chose qui ne fonctionnera pas. Et il y a une chose qu'il faut se dire, moi j'ai appris ça moi en tant que maman de joueur de hockey, quand le parent là voit toujours, que ce soit sur une glace, que ce soit à l'école, il va voir son enfant lui seul.
Tommy?
Une note sur le petit palais du coût, le coût de l'école. On vient de magasiner l'école secondaire de nos enfants, là, puis moi j'ai quand même été fasciné de voir comment, même au public, mon fils est au sport-études et ça coûte 4 000 $ l'inscrire au sport-études. Ouais. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Hein?
Ouais, non, clairement pas. Il faudra qu'on continue ce débat-là. Visiblement, nous n'avons fait que...
Le milieu scolaire, voilà. En général.
Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, Réjean. Merci, Claudine. Merci beaucoup, Tommy. On se retrouve après les nouvelles.